Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, sécheresse, canicule et incendie, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, alerte sur une crise profonde pour l'agriculture française. Au Moyen-Orient, la Syrie accuse Israël d'avoir frappé un aéroport dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Sophie Adenau, en mission dans la station spatiale internationale ISS, doit devenir aujourd'hui la première astronaute française à sortir dans l'espace. Aide aux collectivités, accélération des permis et des aménagements fiscaux. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a promis hier en Gironde de sortir l'artillerie lourde pour reconstruire après le méga-feu et de ne rien cacher sur la gestion des incendies. Le coordinateur politique de la France Insoumise, Manuel Bompard, a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des incendies en France cet été et l'inadéquation des moyens de la sécurité civile pour y faire face. Et avec la sécheresse, la canicule et les incendies, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, alerte sur une crise profonde pour l'agriculture française, réunira le 27 août les préfets pour calibrer un plan d'aide. Elle était invitée ce matin chez nos confrères de France Info.
Évidemment, nous vivons un été terrible et les agriculteurs paient un lourd tribut. Chute de production dans le maraîchage de plein champ, les récoltes se sont effondrées, on a beaucoup de craintes sur le maïs, le fourrage des animaux va manquer, on se tape déjà dans les stocks d'hiver. Donc il y a évidemment une incidence très forte sur la production et puis sur le moral aussi des agriculteurs. C'est quand même le fruit d'une année de travail dont ils voient la perte et c'est la raison pour laquelle nous avons très vite, très tôt enclenché des dispositifs de soutien. C'est une crise profonde, une crise climatique, sur fond de changement climatique, une crise météorologique, la sécheresse, la canicule et pour certains territoires, les incendies, évidemment, composent un trio absolument redoutable pour notre agriculture. L'élément saillant, c'est que tous les territoires et toutes les productions sont impactées à des degrés divers, mais tout le monde, tous les agriculteurs sont concernés. Mon ministère est en mode crise depuis le mois de mai-juin et nous sommes en alerte et nous avons des capteurs de terrain qui nous renseignent en permanence. Le 27 août, je réunis tous les préfets de France et je leur ai demandé de faire un état des lieux très précis, très documenté de la situation de l'agriculture sur leur ressort territorial de façon à pouvoir adapter les aides selon les territoires et les filières. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra émettre des chiffres précis.
Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Et cet été, les effets du réchauffement climatique sont plus visibles que jamais, avec des épisodes de chaleur plus fréquents, plus longs et plus intenses. Alors, comment adapter nos villes, nos modes de vie et nos territoires à un climat qui se réchauffe déjà? À notre micro, le climatologue Philippe Drobinski.
D'abord, il faut sortir de ce que j'appelle la culture de l'urgence et de la réaction. On est capable de mettre en œuvre des moyens pour pallier l'urgence d'une situation de crise. Mais on n'est clairement pas dans l'anticipation et malgré les 30 ans du rapport du GIEC dans lequel tout est écrit quelque part, on n'est clairement pas adapté au réchauffement climatique. Donc la première priorité, il y a déjà le côté chaleur hein, et clairement là les territoires les plus vulnérables sont en particulier les villes. Donc il faut adapter les villes à la chaleur, hein, végétaliser, désimperméabiliser, créer de l'ombre, développer des refuges de fraîcheur comme ça se fait beaucoup en Espagne, adapter les bâtiments, les écoles, les hôpitaux. Bien sûr, les horaires de travail. Hein. L'enjeu n'est pas seulement le confort, hein, c'est un enjeu sanitaire et puis de justice sociale. La deuxième priorité, c'est faire de l'eau une question transversale d'aménagement. Il faut réduire les consommations et les fuites, améliorer l'efficacité des usages agricoles et industriels, restaurer les sols et les zones humides, favoriser l'infiltration et puis définir en fait collectivement les priorités lorsque la ressource devient insuffisante, comme ça peut l'être actuellement. Ensuite, moi je vois une troisième priorité, hein, c'est d'adapter les territoires au risque, comme je l'ai dit, plutôt que simplement réparer après chaque catastrophe. Et surtout, réparer, c'est plus le bon mot. Il ne faut pas réparer à l'identique. Il faut vraiment réparer, reconstruire et adapter dans un climat qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais qui est celui de 2050 ou de 2100. Et enfin, voilà, c'est finalement ma quatrième priorité, mais c'est juste une continuité de ce que je viens de dire, c'est clairement, il faut dimensionner toutes les adaptations pour le climat futur et non celui d'aujourd'hui. Quoi. Une infrastructure en fait, qui est construite aujourd'hui sera encore utilisée en 2050 ou 2080. Une forêt plantée aujourd'hui sera encore là à la fin du siècle et donc il faut adapter. Et adapter consiste donc à regarder devant nous et pas dans le rétroviseur.
Philippe Drobinski, climatologue, il sera l'invité d'Inès Gilles dans le Grand Angle ce soir après le flash de 18h. En Belgique, les pompiers espèrent encercler définitivement aujourd'hui l'incendie historique qui a déjà ravagé depuis vendredi 3000 hectares d'un parc naturel dans l'est du pays, selon les autorités locales. Dans l'actualité au Moyen-Orient, la Syrie accuse Israël d'avoir frappé un aéroport dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, peu après la visite d'une délégation militaire turque venue préparer sa rénovation, selon une ONG syrienne. Et toujours en Syrie, 3 personnes sont mortes aujourd'hui lors d'une explosion d'origine inconnue dans une centrale électrique dans l'ouest du pays, selon un média d'État. Le plan de paix américain à Gaza pourra-t-il finalement être mis en œuvre? En visitant Israël, l'émissaire américain Jared Kushner a dit espérer un début du désarmement du Hamas d'ici 30 jours et des progrès dans la mise en œuvre de ce plan de paix. On fait le point avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nawal, depuis le refus officiel d'Israël de mettre en œuvre le plan de paix américain, l'avenir de Gaza semblait dans l'impasse. Mais après son entrevue avec Benjamin Netanyahou, Jared Kushner a donné des garanties sur le désarmement du Hamas avec un calendrier précis. Nous pourrions constater des progrès d'ici à peine 30 jours avec, espérons-le, le début du retrait d'une partie des armes, a déclaré l'émissaire américain. Nous ne permettrons pas que Gaza soit reconstruite tant que la démilitarisation n'aura pas lieu, a-t-il ajouté. Le désarmement du Hamas pourrait d'ailleurs, comme l'a évoqué hier Israël, être réalisé sous la supervision d'un général américain. C'est un haut responsable israélien qui l'a déclaré à nos confrères de NCS News. Elle s'inscrirait alors dans le dispositif international prévu par le plan de Donald Trump. Washington a déjà nommé le général américain Jasper Jeffers à la tête de la force internationale de stabilisation, appelée à être déployée dans la bande de Gaza. Mais le rôle précis d'un général américain dans le désarmement du Hamas n'a toutefois pas encore été confirmé par l'ensemble des parties. Après son entrevue avec Benjamin Netanyahou, Jared Kushner a également évoqué le sort des infrastructures souterraines du Hamas. Il espère le comblement de certains tunnels au cours des 60 à 90 prochains jours. Le désarmement, je cite, véritable du Hamas, préalable à tout retrait israélien, est une exigence de Benjamin Netanyahou en pleine campagne électorale pour les élections du 27 octobre prochain et sous pression de l'extrême droite. Ce dimanche, le gendre de Donald Trump avait également rencontré les membres de la direction du Hamas. Le mouvement palestinien a réaffirmé son engagement pour l'accord de paix à Gaza en acceptant de collaborer pour son propre désarmement.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et le détroit d'Ormuz, la voie maritime stratégique au cœur du conflit entre l'Iran et les États-Unis, restera fermé tant que Washington n'aura pas rempli ses engagements prévus par le protocole d'accord signé en juin, a annoncé le négociateur en chef iranien Mohammed Bagher Ghalibaf. Dans le reste de l'actualité en Ukraine, une frappe de roquettes russes a fait au moins 10 morts et une quinzaine de blessés dans un village du nord-est du pays, selon les autorités régionales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de répondre à cette attaque. Retour en France à Sevran, en Seine-Saint-Denis, une femme d'une cinquantaine d'années est décédée et 2 pompiers ont été blessés, dont un grièvement, dans l'incendie de plusieurs appartements. À Rennes, une enquête a été ouverte pour meurtre sur personne vulnérable après la découverte dimanche dans la soirée du corps sans vie d'une résidente dans un EHPAD, selon le procureur adjoint. Dans un tout autre volet, Emmanuel Macron était à Bornes-les-Mimosas hier pour commémorer le débarquement de Provence d'août 1944. Il a annoncé un doublement du budget de l'armée et la promulgation de la loi de programmation militaire qui permettra notamment d'organiser le service national. Je vous laisse écouter le président de la République.
Cette France forte, puissance d'équilibre et de paix indépendante, c'est en effet celle qui est portée par nos forces armées, sur tous les continents et sur notre sol, à travers tous nos territoires. Et c'est celle qui a conduit notre nation à se réengager depuis 10 ans, à doubler le budget de nos armées. Et je me tiens devant vous aujourd'hui, après avoir promulgué hier la loi de programmation militaire que le Parlement a votée il y a quelques semaines, et que le Conseil constitutionnel a validé il y a quelques jours. Et au journal officiel de demain paraîtra cette loi de programmation militaire. C'est elle qui permettra, dès 2027, d'avoir doublé le budget de nos armées, qui permettra 36 milliards d'euros d'investissements nouveaux pour nos armées sur la période 2026-2030, qui permettra, dans le cyber, en matière de drones, en matière d'innovation, dans toutes les capacités différentes, de faire davantage d'agir dans les tirs dans la profondeur, comme dans la défense antibalistique, tirant aussi tous les enseignements des changements de la guerre. À la France de se protéger, d'être cette nation aussi qui consolide l'engagement des autres. Et puis c'est cette loi de programmation militaire qui permettra dans quelques semaines d'organiser le service national et qui donnera un cadre à l'engagement de notre jeunesse.
Le président de la République, Emmanuel Macron. Et enfin, Sophie Adnaud, en mission dans la Station spatiale internationale, l'ISS, doit devenir aujourd'hui la première astronaute française à sortir dans l'espace en compagnie de l'Américain Anil Menon. À 44 ans, Sophie Adnaud est la deuxième femme européenne à faire une telle sortie qui permettra de remplacer une antenne. Le départ débutera à 14h35, heure française, et l'opération devrait durer 6h30. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.